Donc moi je suis Dominique Ossan, je suis coordonnatrice du réseau Ambition Réussite de Cherbourg et du réseau de réussite scolaire de Cherbourg, tout là-haut. Et donc je te laisse te présenter, peut-être Didier.
Oui, alors je suis Didier Perrier, mais je reviendrai peut-être dans le cours de... Je suis alors conseiller pédagogique sur le RAR de Cherbourg, mais on m'a aussi demandé d'intervenir au titre, comme le dit Dominique, du lien à la recherche, et je vais peut-être revenir sur cet aspect-là des choses au cours de mon intervention.
Voilà, alors d'où je parle ce matin, donc j'ai opéré une petite migration depuis la place du fond, puisque je suis aussi stagiaire cette semaine, et donc je suis là pour partager des questions, hein. Donc je suis venue pour partager des questions, et là sur ce temps précis, bah, vous allez partager mes questions, chères bourgeoises, nos questions chères bourgeoises. Donc je suis professeure des écoles. De formation, enfin institutrice, hein, du temps où le baccalauréat suffisait, mais où on avait 3 ans de formation professionnelle. Donc une époque révolue. Et donc, comme le disait Patrick, je vais d'abord excuser l'absence de notre IAIPR de tutelle du RAR, qui est une IAIPR de lettres, qui a beaucoup œuvré pour qu'on puisse participer à ce stage, et qui est très présente sur le terrain. Donc, on la remercie, on l'excuse.
Et qui s'appelle Patricia Fize.
Peut-être la nommer. Donc, l'intitulé de notre petite présentation... Alors ça commence mal, ça convient qu'à moitié intitulé, puisque on va bien parler d'un projet collectif pour le réseau, on va bien parler de la production d'écrit, hein, ou en tout cas de la place de l'écrit et de l'écriture, mais c'est les deux points entre les deux quoi, qui ont l'air de mettre les deux choses ensemble et ça se résume pas quoi. Hein, donc on va essayer de vous présenter ça un peu. Donc un peu de contexte de ce réseau, donc contexte un peu de géographie, un peu d'histoire. Alors, faut que je mette ça là, j'ai pas l'habitude de parler dans le micro. Voilà, donc j'ai préparé pour Paola, qui est chilienne, mais peut-être pas que pour Paola, une petite carte pour vous dire là géographiquement d'où on vous parle, hein, puisque Cherbourg c'est tout là-haut, hein, la petite pointe, tu vois, où c'est. Hein, c'est voilà, là. Et c'est pas sans importance, puisque si on revient sur ce qu'on a eu hier sur les présentations de départements, hein, la ZEP de Cherbourg, ou le RAR, enfin bon, le territoire d'éducation prioritaire de Cherbourg, c'est le seul territoire d'éducation prioritaire du département de la Manche. Et dans l'académie de Caen, donc est constitué du département de la Manche, de l'Orne et du Calvados. Et il y a 3 RAR, un par département, et il y a une petite dizaine de RRS à côté. Ce département donc est tout en longueur, tout en hauteur. On est tout au bout, et ça a son importance parce que on est un peu les irréductibles gaulois tout là-haut. C'est-à-dire qu'on est un peu au bout du monde, que... du point de vue des familles ou des gens qui viennent habiter à Cherbourg, il y a les locaux et puis il y a aussi des gens qui viennent, on dit, échouer là, hein, tout au bout. Donc avec tout ce que ça peut vouloir dire d'arriver tout au bout et de ne pas pouvoir aller plus loin. Du point de vue de la population des enseignants, Cherbourg c'est la grande ville du département. Et donc quand on habite ce coin... Si on veut être en ville, il faut être à Cherbourg. Et si on est à Cherbourg, on est un peu sur la ZEP. Ce qui fait que du coup, il y a une stabilité qui au départ n'est pas forcément choisie, mais de fait, il y a une stabilité. Et vous verrez que, en fait, dans l'équipe de la ZEP, il y a une stabilité là qui n'est pas un obstacle. Au contraire. Donc une ZEP historique... historique parce que le territoire de Cherbourg est en ZEP depuis 82, donc une vieille ZEP. C'est pas très gentil de dire ça parce que le premier coordonnateur de la ZEP, c'est Didier. Donc, c'est pas très sympa de dire ça de mon vieux camarade, mais on travaille ensemble depuis longtemps, donc on a l'habitude. Donc une ZEP historique et qui, dès le début, a un lien fort avec la recherche. C'est-à-dire que très tôt, il y a eu des contacts, des chercheurs qui sont venus là-bas, tout au bout du monde, pour donner, mettre à portée des savoirs issus de la recherche et tenir quelque chose qui reste dans un collectif malgré tout. Hein, des gens qui sont là depuis longtemps qui tiennent ça. Pas que lui. Donc l'importance dans ce contexte de la mémoire locale pour s'inscrire dans l'histoire tout court. Hein. La mémoire locale, c'est des enseignants qui sont stables et qui sont là depuis longtemps. Et puis, quelque part, la mémoire vivante de la ZEP à travers la présence d'un coordonnateur qui est devenu conseiller pédagogique, qui est aussi chercheur. Et c'est pas rien, loin de là. Dans le contexte de ce travail-là, il y a aussi l'histoire des calendriers. Alors, sur l'histoire du rare, pour nous, c'était quand même quelque chose d'important, parce que quand on a été classé en rare en 2006, on arrivait en fin du contrat de réussite ZEP. Donc, ça tombait bien. On était en train de faire notre bilan de 3 ans de contrat de réussite ZEP. À ce moment-là, on est classé en rare. À ce moment-là, il y a un rapport de l'inspection générale qui sort. Donc, au moment où on est en train de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on avait fait, comment on avait fait et qu'est-ce qu'on allait faire, il y a un chercheur qui vient, qui dit des choses, bon, alors, pas que le chercheur, l'inspection générale bien sûr, mais qui est très appuyé sur des chercheurs. Et du coup, ça fait quand même que pour une fois, des calendriers, finalement, ça s'est pas trop mal arrangé au niveau du temps. Et puis, dans ce contexte assez favorable, il y a, ce que je vous disais tout à l'heure, un collectif d'enseignants stables, puis un encadrement qui est, au pire, bienveillant. Pour certains, franchement, engagés, mais pour la plupart, quand même, bienveillant. Et c'est pas rien non plus, sur ce que j'entends de droite et de gauche, depuis qu'on échange. Hein. Donc, ça a son importance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé donc en 2006? Eh bien, on avait une grande ZEP à Cherbourg, donc une ZEP qui regroupait 3000 élèves en 95, avec 2 collèges et au départ 11 établissements scolaires. Et donc cette ZEP, elle a été séparée hein, en deux, hein, un réseau ambition réussite et un réseau de réussite scolaire, dans un contexte de forte baisse démographique, puisque en 10 ans, ce territoire a perdu 1000 élèves. Donc c'est quand même c'est pas de la fuite de l'évitement de la ZEP, c'est de la baisse démographique au niveau du département. Donc ça c'est une donnée importante. Donc on va vous parler maintenant plus précisément du rare et de comment les choses se sont passées un peu pour nous et en essayant de voir ce qui a pu nous aider et les questions que ça pose aussi. Donc, comme je vous disais, en fait, ce qui nous a paru, et ce qui nous a pris beaucoup de temps, et ce qui nous a paru vraiment très important, c'est de passer du temps à élaborer ce diagnostic. On était, je vous disais, sur le bilan du contrat de ZEP, bilan des actions, essayer d'évaluer les effets de ces actions-là, ce qui était extrêmement difficile à faire, puisque ce précédent projet de ZEP, c'était un catalogue d'actions, voilà. Sans réelle cohérence, sans réelle prise en compte de difficultés spécifiques d'élèves, et surtout moi ce que je trouvais, puisque j'étais arrivée depuis 3 ans, je trouvais que en fait les collègues ne voyaient pas très bien le sens de ce projet en fait, un projet de ZEP, un projet d'école, un projet d'établissement, un projet académique, avec un empilement de projets et pas de sens à celui-ci spécifiquement. Donc du coup, on a pris beaucoup de temps pour essayer d'élaborer ce diagnostic de façon précise, grâce au regard national que nous offrait le rapport de l'inspection générale, grâce aux outils académiques avec un tableau de bord assez précis, et puis surtout à notre tableau de bord à nous, qui est un outil local qu'on avait depuis 95 aussi. Donc on arrivait quand même à suivre assez précisément, hein, toujours ce côté histoire, mémoire du lieu. Donc c'est un outil qui existait et qui nous a quand même aidé à faire ce diagnostic là et donc faire le diagnostic, ça voulait dire pour nous essayer d'analyser beaucoup plus finement les difficultés des élèves et les difficultés des enseignants et à partir de là identifier des points forts, des points faibles et les leviers possibles. Donc notre démarche a été celle-là, donc passer du temps sur ce bilan. À partir de là, faire des constats, essayer de poser des questions, comprendre, analyser et prendre de la distance. Donc pour ça, aller chercher des ressources, notamment le lien avec la recherche à ma gauche, s'approprier collectivement ses connaissances et à partir de là, élaborer collectivement encore des propositions et des réponses. Donc tout ça, ça prend un temps très important. Et donc là, moi j'insiste fortement là-dessus. Alors, je ne sais pas si on pourra le couper ou pas, mais bon. C'est-à-dire que l'institution, quand on a été classé en rare, en mars-avril 2006, elle voulait le projet rare 15 jours après. Ou avant de partir en vacances. Et puis en septembre, il fallait donner le projet. Et puis en novembre, il fallait donner le projet. Et nous, on l'a rendu que en mai, juin de l'année d'après. C'est-à-dire qu'on a résisté, en disant non. Non, un projet, c'est pas ça. Un projet, ça se fait ensemble. Et on prend du temps pour faire les choses bien. Et vraiment, vraiment, je regrette pas, même si ça a été dur, de le tenir. Hein. C'est pas moi qui l'ai tenu, hein, c'est les chefs. Hein, mais n'empêche qu'il faut. Parce que sinon, c'est pas possible de travailler, quoi. Après, on perd complètement le sens de ce qu'on fait. Donc, tu me dis, hein, si... Alors, comment on a fait ce collectif-là, hein ? Donc, on a associé très tôt les équipes enseignantes. Donc, on est allé les voir, on est allé dans les écoles. On a diffusé... par exemple, en ce qui concerne le rapport d'Anne Armand, on en a fait des petites compilations, enfin des extraits, des photocopies. On est allé le donner par mail, etc. On a créé très très vite des espaces de travail à partir de notre diagnostic, hein, donc des commissions. Et puis on a essayé d'utiliser au maximum tous les espaces de travail collectif. On en a créé, mais il y en a qui existent déjà, et donc on les a vraiment fait vivre autour de l'élaboration de notre projet. Donc c'est le conseil de maître, le conseil de cycle, le conseil pédagogique, le comité exécutif, nos commissions de thématiques qu'on avait fait en rapport avec notre diagnostic, les temps de formation, les stages, les animations pédagogiques, tout. Vraiment, on a utilisé tous ces espaces de travail pendant une année complète, et on a fait des allers-retours. En fonction de l'avancée de notre projet, à chaque fois, on remettait ça, on renvoyait l'avancée collective aux équipes. Alors, tous ces espaces-là, ils ont leur importance, hein, pour que le projet soit vraiment un projet collectif et que le réseau se constitue bien comme un réseau. Et puis, ce qui n'est pas rien non plus, c'est qu'on a eu, alors c'est pour ça que je dis un encadrement bienveillant, c'est que notre IA, en fait, nous accorde des temps où on peut se retrouver tous les acteurs du réseau, enfin au moins tous les enseignants. Donc on a des mercredis matins, au moins deux fois dans l'année, où on peut se retrouver tous les enseignants ensemble pour travailler. Et franchement, je sais pas comment ça se passe ailleurs, quoi, mais je vois pas bien comment on peut faire si on se voit jamais qui on est, ce réseau-là, se voir vraiment, quoi. Prendre conscience que le réseau, c'est nous, hein, c'est nos élèves, mais c'est nous aussi. Donc, voilà un peu ce qui est sorti de notre diagnostic, hein, en fait. Ce qu'on a essayé de dire, c'est le projet de l'éducation prioritaire, c'est bien, si on est en ZEP, c'est parce que ce qu'on a en commun, c'est nos élèves. Et nos élèves, si on est en ZEP, en RAM, hein, c'est qu'ils ont certaines caractéristiques communes. Et c'est pour ça qu'on est ensemble. Et donc, ce qu'on a à faire ensemble, c'est de déterminer ce qui est vraiment prioritaire, ce qui est vraiment crucial à faire tous ensemble pour essayer de faire une école pour tous les élèves. Voilà. Le mot ensemble et collectif, il revient tout le temps, mais il est vraiment important, quoi. Donc, on a trouvé, hein, grâce au travail qu'on a fait, hein, on s'est centré là-dessus. Hein, nos élèves, ils ont d'abord des difficultés langagières et linguistiques. Et donc, ça, il faut le prendre en compte et c'est notre axe de travail prioritaire. C'est celui qui va absorber toute notre énergie et avec, en background, l'idée que tout ce qu'on doit faire, c'est revenir dans la classe. C'est le quotidien de l'enseignant, c'est comment enseigner qu'on doit travailler à travers ça. C'est vraiment sortir du dispositif vitrine, des trucs qu'on fait à la fin de l'année, parce que, bon, je vais être un peu critique, mais il fallait dépenser l'argent de la ZEP au mois de mai, donc on faisait vite un truc CM2 6e pour dire qu'on faisait de la continuité des apprentissages. Bon, ça peut être ça des fois. Donc, ils ont aussi des difficultés cognitives et relationnelles, donc... Du coup, on réfléchit un peu collectivement sur tout ce qui a à voir avec être élève. Donc, c'est pas par hasard qu'on est là. Hein. Et puis, les partenariats, la question des partenariats, la question des parents qu'on a mis dans notre axe 3. Et donc, ça, c'est ce qui structure notre projet. Et donc, du coup, puisque c'est référé vraiment à des difficultés d'élèves que les enseignants ont identifiées et qu'on a partagées, le projet, il a du sens au quotidien pour l'enseignant qui va dans sa classe, quoi. C'est pas un truc pour faire plaisir à l'inspecteur. C'est un outil pour tous. Donc, je crois que c'est là que je passe la parole à Didier qui va un petit peu vous préciser comment on a travaillé avec lui.
Merci Dominique pour la première partie. Je vais revenir. Dominique a tracé les grandes lignes du projet RARE de Cherbourg et de son histoire. Et on m'a demandé, Patrick Picard en particulier, que je remercie, m'a demandé d'intervenir sur mon point de vue, comment je me suis inscrit dans cette affaire. Et je crois qu'on me le demande à deux titres, comme on le disait rapidement en présentation. Et au titre de conseiller pédagogique, c'est mon statut professionnel. Hein, et antérieurement, j'avais été coordonnateur de la ZEB de Cherbourg, c'est vrai. Et au titre de ce que Dominique a appelé mon lien à la recherche, alors qu'il faut que je précise un tout petit peu, je suis membre de l'équipe ESCOL, qui est dirigée par Elisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex. J'ai soutenu une thèse de doctorat sur la question des logiques enseignantes et des pratiques d'écriture. Je suis chargé d'un cours à Paris 8 concernant les pratiques enseignantes et l'évolution des contextes. Et enfin, j'ai des activités de recherche à l'heure actuelle. On démarre une recherche sur les évolutions de la littérature de jeunesse avec Stéphane Bonnery. Donc, il y a une activité de recherche qui est celle-ci. Mais pour autant, Dominique a parfaitement raison de le souligner, je suis loin d'être le seul à être intervenu sur la ZEB de Cherbourg. Hier, Patrick Picard me posait la question de l'origine. Je crois qu'en fait, l'origine de ce travail et de ce lien avec la recherche, c'est probablement, mais il y a toujours un avant à quelque chose, hein, c'est probablement la dynamique de travail qui était lancée par un inspecteur de l'éducation de l'époque, de l'éducation nationale, qui est Raymond Ouzoulias. Et alors, sur cette ZEP, on travaillait à un moment ou à un autre, plus ou moins, Gérard Chauveau, Agnès Van Zanten, Jean-Yves Rochex, Henri Perroni, Thierry Piau, je vais pas citer tout le monde, hein, y a des oublis, Marie-Lise Pelletier, et aussi, un complice de 4 années de travail, qui est Jacques Bernardin, et que j'ai plaisir à saluer là, d'autant que Jean Bernardin va intervenir tout à l'heure. Voilà. Donc une ZEP qui a été travaillée avec des interventions physiques, si j'ose dire, des personnes, parce que on sait tous que le lien à la recherche, ça peut aussi passer par des lectures. Alors, j'ai repris les questions qui surplombent la journée. Je vais vous la dire, c'est plus simple. Alors, je l'ai reformulé comme ça. En partant du RARE de Cherbourg, une question posée est celle des mobilisations collectives sur le rapport au savoir dans les réseaux de l'éducation prioritaire. Et cette question a un corollaire que je lis aussi, c'est la question des étayages théoriques pour penser l'action quotidienne. Bon. Alors, je ne prétends pas répondre à tout ça, mais je vais essayer quand même de faire quelques remarques qui vont essayer de donner un peu de grain à moudre dans ce sens-là. Alors, le premier point que je voudrais aborder, mais brièvement, parce que Dominique, je crois, a bien dit les choses, c'est celui du projet par lui-même. D'abord, des remarques d'ordre éthique et méthodologique. Alors, c'est un projet centré sur les pratiques pédagogiques. Je n'y reviens pas. C'est un projet, et je n'y reviens pas non plus, qui se dégage de l'extraordinaire du projet. On pourra revenir. Je ne développe pas tout, mais ceux qui connaissent, et vous êtes nombreux dans cette salle à connaître l'histoire des ZEP, savent ce que je veux dire, et puis ça peut donner lieu à questions. Quand je dis « je ne développe pas », vous savez que c'est un code, vous pourrez poser des questions. Se dégager également d'un allant de soi qui fait florès actuellement en ZEP, à mon avis, c'est celui de la responsabilité des familles. Et là, on peut, si on est en termes d'étayage théorique, penser notamment sur ce sujet aux travaux de Dominique Glassman, de Daniel Tain, de Thierry Piot, qui parlait d'une logique civilisatrice, de Pierre Perrier. Vous avez, pour certains d'entre vous, entendu la notion de différent. Et Dominique Glassman avait parlé aussi de la différence d'emploi des termes génériques comme famille ou parent. Donc il y a ici des appuis théoriques importants. Également, une remarque sur ce que l'on appelle la compétence éthique, telle que a pu en parler Lise de Mailly, ou l'ont reprise à différents niveaux Elisabeth Bottier, Jean-Yves Rochex ou même Gérard Chauveau. L'idée que, au départ de tout ça, il y a quand même l'idée d'éducabilité des élèves, l'idée que les pratiques pédagogiques peuvent changer les choses, même si les élèves et que nous avons dans les éducations prioritaires ont parfois une certaine distance par rapport au savoir de l'école tel qu'ils sont exigés aujourd'hui. Et également, on ne peut pas parler d'un projet sans le mettre en perspective avec un horizon. Et l'horizon dans lequel nous nous inscrivons, ou en tout cas pour ma part je m'inscris, c'est celui de la démocratisation de l'école, qui ne peut pas être pensé uniquement en termes d'accès à des niveaux d'enseignement, mais qui doit être pensé en termes d'accès au savoir. Et c'est donc sur les conditions d'accès au savoir que le travail, de mon point de vue, doit porter. Une deuxième série de remarques que je voudrais faire sur le projet, il manque une diapositive, c'est des remarques d'ordre méthodologique également. Ce que Dominique l'a souligné également, c'est l'importance du diagnostic quand on élabore un projet. C'est déjà ancien, je me souviens d'une conférence de Bernard Charlot en 1992, je crois, à l'UNESCO. Il avait insisté sur cette question de l'élaboration de projets, et il faisait cette remarque que je crois encore pertinente aujourd'hui. Il disait que souvent, quand on élabore un projet, l'intuition de l'action précède l'élaboration du diagnostic. C'est-à-dire, on imagine par avance ce qu'il faut faire, sans s'être vraiment posé, sans véritablement avoir analysé ce qui fait difficulté et quels sont les problèmes à résoudre. Et on voit bien l'écueil que l'on rencontre. On a tous entendu « Ah oui, il faut faire ça parce que les élèves manquent d'eux. » Ils manquent de visites, d'expositions, des choses comme ça. Donc, importance du diagnostic et d'un diagnostic qui prenne le temps, puisque là on parle de réseau ambition réussite et d'élèves, et qui prenne le temps d'analyser ce qui fait difficulté scolaire. Et vous allez voir pourquoi, je dis volontairement difficulté scolaire et je ne dis pas difficulté des élèves. Je vous fais remarquer la nuance. Donc j'en viens à mon deuxième point. Quelle analyse des difficultés scolaires, et également toujours le corollaire, avec quelle référence théorique? Ce qui fait l'enjeu des difficultés scolaires, de mon point de vue, se situe dans une articulation entre les dispositions et les dispositifs. Les dispositifs d'enseignement, les dispositifs pédagogique. C'est plus une notion qu'un concept, le mot de dispositif. C'est quelque chose qui est plus large que la situation d'apprentissage, parce qu'il peut être reproduit d'une situation d'apprentissage à une autre. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait la démarche, qui serait plus l'opérationnalisation ou le produit de la démarche. Et c'est quelque chose qui est plus étroit, plus réduit que les pratiques enseignantes. Mais bon, en plus, disposition, dispositif, il y a un aspect mnémotechnique qui est pratique, que je vais utiliser. Donc une articulation entre disposition et dispositif qui est de l'ordre de la confrontation entre des socialisations familiales, des dispositions des élèves, ce qu'ils ont acquis, ce qui est acquis dans le milieu familial, et des socialisations ou une socialisation scolaire, et des exigences scolaires, qui est ce que l'école exige, et on sait tous depuis belle, c'est aussi vieux que les premiers travaux de Bourdieu, on pourrait dire, hein, que l'école exige quelquefois, voire bien souvent, ce qu'elle n'enseigne pas. Hein, c'est ça qui fait aussi problème. Et c'est cette articulation qui, de mon point de vue, justifie les choix énoncés par Dominique, un axe langage extrêmement fort, un groupe de travail être, devenir élève, qui travaille les postures d'enseignants et le rapport au savoir des élèves, en tout cas leur mobilisation cognitive, voilà. Alors je voudrais revenir sur ce qui justifie ces choix-là, un peu plus en détail. Je voudrais développer un petit peu cette question-là. D'abord, pour penser les difficultés des élèves, on peut utiliser la notion de rapport au savoir, alors avec ou sans S d'ailleurs, X, à au savoir, comme le rapport au savoir faisant référence finalement aux mobilisations différenciées des élèves dans les apprentissages et aux malentendus socio-cognitifs dont il a été question déjà ce matin, qui peuvent advenir, surgir dans les situations scolaires. Alors, en termes d'appui théorique, notamment les travaux de l'équipe Escole avec, dans un premier temps, le livre de Bernard Charlot, Elisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex avaient mis en route, en chantier, c'était pas les seuls, mais enfin largement, la question du rapport au savoir. Et on peut dire, je pense aujourd'hui, que les travaux de Stéphane Bonnery reprennent très largement cette question. Alors, si on veut développer un tout petit peu, ça revient à dire que pour certains élèves, avant de dire ça, je voudrais dire une chose. Je voudrais quand même dire que cette notion de rapport au savoir n'est pratiquement plus utilisée dans l'équipe Escole pour des raisons de réception de la notion, de la façon dont la notion a été reçue, parce que le rapport au savoir qui se dégageait de la notion de handicap socioculturel a quelquefois été entendu par ceux qui écoutaient ça ou qui disaient ça comme étant une nouvelle ressuscée, si j'ose dire, une variante de la notion de handicap socioculturel. Autrement dit, des élèves auraient un bon rapport au savoir, d'autres auraient un mauvais rapport au savoir, et les choses sont ainsi faites que les choses sont relativement figées si on a cette vision, alors que dès les premiers travaux, on voit que c'est une notion en évolution, que plus les élèves sont jeunes, plus le rapport au savoir est labile, etc. etc. Bon. Alors j'en parle, dépolarité. Donc c'est l'idée que certains élèves, mais les élèves typiques, des élèves théoriques un petit peu, les vrais élèves sont souvent entre les choses, hein, c'était déjà dit à l'époque, que pour certains élèves, chaque situation d'apprentissage, chaque dispositif d'enseignement est bien évidemment une occasion d'apprendre, une occasion d'identifier les savoirs, et savent parfaitement, pour dire les choses simplement, à quel jeu l'école est en train de les faire jouer. D'autres élèves ont plus de mal à entrer dans le jeu scolaire, et ils ont davantage de difficultés à voir les situations d'apprentissage comme étant des situations précisément où il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à identifier, et ils sont, pour reprendre une expression beaucoup utilisée, ils sont au plus près de la tâche. Et ils voient assez peu en quoi la tâche à laquelle ils sont confrontés est en quelque sorte, mais en quelque sorte, en scène, un savoir qu'il va falloir s'approprier. Un exemple classique. Un exemple classique et qu'on peut vérifier, suffit d'aller en observation dans une classe, chacun peut le vérifier. Les mêmes élèves, la même classe, les mêmes élèves, le même cours, le même enseignant, devant la même tâche, souvent en prenant l'exemple de la remise en ordre de quelque chose, vous interrogez les uns dès le plus jeune âge, hein, ils disent « je suis en train de refaire une phrase, je remets les mots dans l'ordre », quand d'autres vont dire « je colle des étiquettes ». Et là, on voit bien que les élèves de même milieu populaire ne s'approprient pas les savoirs en jeu dans les tâches scolaires de la même façon. Je passe parce que je pense que Jean Bernardin aura notamment l'occasion de revenir ici sur cette question. Alors, entre les élèves, on voit de la différence sur l'identification des savoirs, je viens de le dire, mais on voit aussi de la différence ailleurs. On voit de la différence sur la relation à l'enseignant. Certains élèves sont relativement indépendants de l'enseignant, qui est là pour les aider à apprendre, quand d'autres sont vraiment dans l'idée que c'est le maître, ou la maîtresse, ou le professeur qui m'apprend. Hein ? La personne active dans la classe, c'est l'enseignant. Et comme disait, d'ailleurs, l'expression me revient en tête, comme le disait Jacques Bernardin, quand certains sont actifs chercheurs, d'autres sont passifs récepteurs. Et la question de la dépendance, de l'indépendance relative à l'enseignant, est cruciale. Différence également dans les modes de dire, de lire et d'écrire. Et c'est en quoi la notion de rapport au savoir, à mon avis, pour être mieux comprise, doit également être liée à la notion de rapport au langage des élèves. Alors l'étayage théorique, on peut le rechercher notamment du côté de Bernard Lahir et d'Elisabeth Bottier sur la question de l'oral et de l'oralité, du scriptural et de la culture écrite. Néanmoins, avant, je ne suis pas rigoureusement mes notes, je voulais rappeler une partie des travaux de Basil Bernstein sur la question du langage où, si je fais court et schématique, trop schématique sans doute, Basil Bernstein disait que ce qui fait difficulté pour les élèves à l'école, c'est moins la question des capacités cognitives, pour le dire en langage extrêmement commun, pas de différence d'intelligence entre les élèves. En revanche, là où il y a de la différence chez les élèves, c'est sur la maîtrise du langage, c'est sur le langage, c'est le langage, les capacités langagières qui font vraiment différence à l'école. Là encore, quand les uns sont dans un langage, sont entrés de plein pied dans la culture écrite, ils sont de plein pied dans l'étude et la maîtrise d'un langage dans le scriptural, comme on dit, d'autres, je viens de le dire, sont plutôt dans un oral de l'oralité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour certains enfants, pour certains élèves, le langage, ça consiste en gros à se débrouiller dans toutes les situations. Le problème, c'est que dans ces situations, il y a également les situations scolaires. Ils sont plutôt dans l'utilisation d'un langage implicite. C'est pas la peine de dire tous les mots, celui qui est en face de moi, il va bien comprendre. C'est vrai à l'oral, c'est vrai quand il passe à l'écrit. C'est au lecteur d'apporter la cohérence de ce qu'ils ont écrit. Daniel Tin prend un exemple qui me paraît extrêmement parlant. Il a fait, j'ai pas écrit toutes les références, hein, si on a l'occasion de vous faire un écrit de tout ça, je les mettrai. Dans un de ses travaux, Daniel Tin évoque les entretiens qu'il a eus avec des collégiens en difficulté, s'entretient avec eux. Il est avec un jeune qui lui parle de ses rapports avec les autres et il se bagarre. Et plutôt que de lui narrer, de faire un récit de la bagarre, le jeune se lève et mime la bagarre. Vous voyez que les élèves ne sont pas dans les mêmes dispositions acquises par rapport au langage et par rapport au langage que l'école réclame. Pour l'école, le langage, c'est la langue que l'on étudie, je ne développe pas, c'est l'apprentissage du langage écrit, bien sûr, apprendre à lire et à écrire, C'est aussi beaucoup, et peut-être qu'on insiste moins là-dessus, c'est l'usage d'un langage pour apprendre, d'un langage pour élaborer. Et l'école demande une lente, une très lente construction des savoirs, une utilisation particulière d'un vocabulaire, d'un lexique, de tournures syntaxiques. Et pas seulement ça, parce que là on ne serait que dans le linguistique, et demande aussi d'utiliser le langage pour comprendre, c'est-à-dire construire progressivement des concepts. Ça suppose classer, ça suppose catégoriser. Et avec quoi les élèves classent-ils, catégorisent-ils ? Avec les mots, voire avec des graphiques, des tableaux, des listes. On est en plein dans la question du langage. Et l'école ne s'arrête pas là. Elle va demander au moins, je n'ai pas prétention à être exhaustif là dans ce que je dis, va au moins demander une quatrième chose. Elle va demander aux élèves d'être capables de produire à l'oral comme à l'écrit les discours qui sont spécifiques à chacune des disciplines. Une production d'écrit en CM2, mais également, allons à l'autre bout, pratique pas à l'autre bout, mais plus loin dans le système scolaire, une dissertation de philosophie ou une dissertation en sciences économiques en terminale. Donc ça, ce sont des genres d'écrits tout à fait caractéristiques, qui sont propres à la discipline. Le mot paragraphe argumenté en troisième en histoire, etc., etc. On peut décliner à l'infini la description d'un paysage en géographie en sixième. Tout ça, tous ces exemples mobilisent du langage, mais ne mobilisent pas le même langage. Il est spécifique et ça suppose une attitude particulière, un rapport au langage, disent Bautier, Lahire et moi-même. Un rapport au langage, ça suppose la mobilisation de ce rapport au langage pour rentrer dans la production de tels oraux ou de tels écrits. Donc ce qui permet de dépasser les difficultés des élèves que l'on a brièvement décrit, c'est à la fois la question de l'activité, tout à fait, la question de l'activité qui est une activité qu'on vient de décrire comme cognitive, mais dont vous avez bien vu qu'on la décrivait également comme étant langagière, mais c'est pas tout, je crois. La question de l'activité seule pourrait peut-être faire oublier autre chose, c'est que ce qu'on demande aux élèves, ce sont des activités d'apprentissage, mais également des pratiques d'apprentissage. Dans la notion de pratique, je crois qu'il y a quelque chose de plus que dans la notion d'activité, ou d'autres, parce que les deux notions se complètent, il n'y en a pas, je m'exprime mal, aucune, il n'y a pas de rapport de subordination l'une par rapport à l'autre, elles sont complémentaires. Il y a l'idée que tout ça, ça demande des habitudes de la part des élèves, donc une acculturation, donc comme il y a, vous l'avez vu, différences de dispositions acquises dans le milieu familial, quel est le lieu qui peut produire cette acculturation ? La réponse est évidente, c'est l'école. Bon, si c'est écrit plus gros, je vous laisse lire. Ça va me faire une pause pour voir comment je vais pouvoir un peu être plus rapide pour le. Voilà, là où c'est écrit que finalement, il faut faire bouger le rapport au savoir et au langage des élèves. Mais la question qui finit, c'est est-ce que l'école le permet ? Est-ce que les dispositifs d'enseignement le permettent ? Pas tout à fait, hélas. C'est là où. Mais on le saurait si la question. Faut pas s'en offusquer, on le saurait si la question des inégalités scolaires était réglée. Je crois, d'ailleurs, peut-être qu'on ne serait pas là. Hein. Bon, je ne reviens pas sur les travaux qui l'ont montré récemment, à partir des évaluations PISA. On a par exemple des choses chez Pierre Merle, mais pas seulement. Les dispositifs d'enseignement et les pratiques sont parfois de nature à apprendre, ça c'est évident. Mais dans les dispositifs d'enseignement, dans les pratiques enseignantes, il peut y avoir des choses qui gênent les apprentissages. Et ça, je pense aux travaux en mathématiques de Butlen et de Marie-Lise, je cherche son prénom, peu importe, Denis Butlen et Marie-Lise Pelletier qui l'ont montré, par exemple en montrant que dans les pratiques enseignantes, il y avait très souvent quelque chose. Alors c'est une entraide de didactique, mais préoccupé par les questions sociales, il montre que par exemple, pour ne prendre que cet exemple, l'institutionnalisation manque dans les cours. Stéphane Bonnery, il l'a montré, mais ça, je crois que le bouquin qu'il a sorti est largement connu. Il l'a montré dans des dispositifs d'enseignement variés. J'ai essayé de le montrer aussi dans mes activités de recherche dans le domaine de l'écriture. Donc je prendrai cet exemple. Dans les classes observées, si on regarde du côté des pratiques d'écriture, l'univers d'écriture des élèves, on voit beaucoup d'exercices écrits. Alors, je vais très vite. Regardez en ZEP au cycle 3 dans une vingtaine de classes. Beaucoup d'exercices écrits du cahier du jour, beaucoup d'exercices sur fiche dans les classeurs d'histoire, géographie, sciences. Alors c'est vrai, Yuri, les enseignants ont de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Néanmoins, on ne doit pas faire des plaisanteries comme ça au micro. C'est voilà. Donc les enseignants ont des raisons de faire ce qu'ils font, d'avoir beaucoup d'écrits, de notations, d'écrits de restitution, mais avec des formes un peu stéréotypées, récurrentes, etc. Finalement de pratiquer assez peu les écrits intermédiaires, les écrits d'élaboration, les écrits de synthèse individuelle, collective, vous voyez un petit peu ce que je mets derrière. Et ça a quand même des effets. Ça veut dire que ça facilite l'évitement de l'activité cognitive des élèves. Pour le dire extrêmement simplement, s'il suffit de répondre par une croix ou par un vrai ou faux, on peut très bien répondre au hasard sans franchement rentrer dans l'activité en question. Il y a des effets d'opacité sur les apprentissages, c'est-à-dire que ça facilite la représentation de l'activité demandée comme étant d'avoir bon, de bien faire juste ce qu'on est en train de faire, sans voir ce qu'il y a derrière la tâche, en renforçant l'idée d'un morcellement des apprentissages, sans qu'il y ait derrière de réinvestissement de ce qui est appris. Et en même temps, ça renvoie à l'idée d'une adaptation aux élèves, mais adaptation voulant dire ici éventuellement un peu à la baisse, en évitant les pratiques d'écriture qui sont évidemment plus coûteuses en temps éventuellement et qui mettent en jeu également une conception de l'apprentissage. Alors comme le temps passe, je voulais vous dire que c'est cette réflexion qu'on a essayé de mettre en œuvre durant l'élaboration de ce projet. J'avais eu l'occasion de travailler notamment avec les collègues de 6e sur la question de l'écriture, en insistant sur les fonctions de l'écriture. Je l'ai abordé un petit peu parce qu'elle outille les élèves. Elle leur permet aussi, l'activité de l'écriture leur permet aussi de prendre conscience du langage. Ça, c'est une expérience, je pense, qui nous est propre à tous. C'est lorsque l'on écrit, que l'on revoit, que l'on voit, je dis presque ce mot-là, entre guillemets, que l'on voit comment le langage fonctionne. Ça permet de développer la pensée. Ben parce que je prendrai juste cet exemple pour faire très court, mais je peux développer. C'est que lorsque l'on s'adresse à un interlocuteur absent et qu'on n'a pas la gestuelle ni l'intonation, il va bien falloir dire si ce que le locuteur dit, c'est une affirmation, si c'est une question, si c'est de l'humour, et si c'est de l'humour, si c'est de l'ironie, par exemple. Quel cas, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du hasard si Olson montre dans un de ses bouquins que le langage de la pensée, supposer, émettre des hypothèses, apprécier, etc., est arrivé tardivement dans l'histoire de la langue. Ça, l'écrit nécessite l'utilisation d'un tel vocabulaire, donc vient à l'appui de l'idée qu'elle permet le développement de la pensée. Mais le point peut-être sur lequel je voulais insister un tout petit peu plus, c'est celui de l'idée de... Alors, l'oral le permet. Je ne veux surtout pas oublier de dire ça. L'oral le permet, mais l'écriture facilite, je le pense encore plus, la possibilité d'un retour sur l'expérience passée, sur les activités qui se sont déroulées en classe, sur les lectures qui ont été faites, sur les écrits qui ont été produits, et elle donne l'occasion, parce qu'elle est un temps de pause, un temps réflexif, elle donne l'occasion aux élèves de revenir sur ces choses qui, vous l'avez bien vu, pour ceux qui, rapport au langage, rapport au savoir, laissent un peu défiler les choses et les laissent se succéder les unes après les autres, l'une poussant l'autre, sans qu'à chaque fois il y ait construction et appropriation d'un savoir. Voilà, donc on avait discuté un petit peu de ça avec les collègues de 6e, et je crois que le mieux maintenant, c'est que Dominique vous présente un peu plus en détail les ateliers d'écriture qu'ils ont mis en œuvre.
Donc là, on arrive à la deuxième partie de l'intitulé, hein, la place de l'écrit, même si ce que Didier a présenté, c'est vraiment très important, enfin, pour l'ensemble du réseau, c'est-à-dire que juste encore 3 minutes là-dessus, mais c'est important. Tout notre axe langage, dans le travail qu'on a fait collectivement avec les équipes enseignantes, c'est de réfléchir. Alors on a mis du temps, hein, puis il n'y a pas que Didier, il y a tout le monde, tout ça, il y a eu plein de trucs, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, nous, ensemble, les enseignants, parce que on fait avec les élèves, donc on sait ça, et on fait quoi? Et on fait quoi ensemble? Parce qu'il y a de la maternelle jusqu'à la troisième. Donc on en fait quoi de tout ça, nous, derrière? Donc on a fait des choix, alors qui sont ce qu'ils sont, hein, qui sont contestables et qu'il a quelquefois fallu défendre pas forcément de façon calme et sereine. C'est-à-dire que sur notre axe langage, on s'est dit voilà ce qu'il faut en gros, c'est développer, systématiser les pratiques langagières des élèves. Il faut qu'à l'école, nos élèves ils puissent pratiquer du langage, qu'ils puissent parler, qu'ils puissent lire, qu'ils puissent écrire tout le temps. Au maximum, c'est ça notre enjeu. C'est de développer ça pour tous et pour chacun. Donc du coup, comment on va faire? Alors, on sait que ces pratiques-là, elles se développent en interaction, hein. Que, comme le disait Didier, d'écrire, ça permet d'avoir une autre représentation de la langue, etc. On sait quand même donner des priorités, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est que sur, en gros, le cycle 1, même si on dit parler, lire, écrire, l'attention des enseignants, elle est quand même portée sur le parler, hein, parler, écouter. Qu'au niveau du cycle 2, on s'est quand même plutôt focalisé sur l'entrée dans l'écrit et sur la lecture, et que sur cycle 3 et collège, on s'est plutôt centré sur l'écrit, apprendre à écrire, écrire pour apprendre. Donc voilà, c'est important de savoir ça parce que c'est quand même un choix, hein, et que il y aurait pu, on essaye d'être vigilant là-dessus, y avoir des dérives qui auraient consisté à dire, bah nous de toute façon on est comme en moyenne section, alors nous on parle, et puis en CE1 on lit, et puis en CM2 on commence à écrire, quoi. C'est pas du tout ça, mais on a quand même priorisé un peu les choses. Donc, je vous ai mis une adresse là en haut. C'est l'adresse d'un site qui présente très en détail, qui a été fait par l'équipe du collège sur l'atelier d'écriture 6e. Et donc, où il y aura des choses beaucoup plus précises que ce que je vais pouvoir vous dire. Donc, je mets un dispositif parmi d'autres parce que il y en a plein d'autres, des dispositifs, hein, dans notre projet RAR et dans le projet d'établissement du collège aussi. En particulier, un autre dispositif qui s'appelle le 17+2, qui fait que les enseignants, en fait, ont des tas de missions autres que celles d'enseigner, enfin, et qui a son importance aussi. En tout cas, là, ce qu'on présente, c'est comment on s'est emparé de tout ce que nous a présenté très rapidement Didier, pour essayer de faire ensemble et de faire évoluer les pratiques, enfin voilà, réfléchir sur comment on fait pour enseigner autrement, comment on fait pour enseigner avec nos élèves. Cet atelier d'écriture, bah, c'est un dispositif modulaire, comme il en existe plein, hein. Donc c'est 10 profs de toutes les disciplines. Alors là, c'est la quatrième année d'existence de ce dispositif-là. Donc il y a eu des profs de physique, SVT, histoire, anglais, français, maths, EPS, voilà, donc ça tourne, hein. En plus il y a un noyau dur et puis ça rentre et ça sort. Et donc l'objectif c'est que tous les élèves de 6e, pendant une heure semaine, sont répartis dans des groupes en fonction de besoins qu'on a essayé de préciser. Et pendant cette heure, en fait, ils pratiquent, alors l'idée de départ c'était développer l'écrit autonome, développer une posture réflexive par rapport à l'écrit. Et mon objectif à moi, puisque Cordo, on est un petit peu dedans dehors, c'était de permettre aux collègues d'avoir un espace de travail collectif autour de ça, et surtout de se mettre en posture d'observer les procédures des élèves. Et donc du coup, comme ils sont dans un dispositif particulier, c'est très étonnant d'entendre les collègues dire, même encore aujourd'hui au bout de 4 ans, quand on est sur notre heure d'atelier, on n'est pas stressé par le programme, des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est une heure de pause. On a l'impression que c'est encore une heure de pause où, là, on peut s'autoriser à faire parler, à faire écrire, à prendre le temps de regarder, à prendre le temps de faire échanger des élèves, et que après ces choses-là, ces observations-là, elles sont mutualisées dans des temps de concertation. Et du coup, ce qui est curieux, c'est que ça puisse pas être tout le temps comme ça. Enfin bon, ça me sidère toujours d'avoir cette petite heure semaine. Je me dis, comment on va faire quand on ne l'aura plus ? Parce que sinon, il n'y aura plus rien, quoi. Enfin bon, c'est pas très très gentil de dire ça, mais heureusement qu'il y a ça. Donc là, vous avez un exemple de, hein, je vous dis pas tout, hein, mais des types d'écrits qui ont été proposés, hein, dans ces ateliers-là. Et donc là, ce qu'on peut montrer, hein, ce qui se passe en fin d'année, quoi. Donc on a pris des élèves qui sont des élèves, alors on voit pas forcément très très bien, mais même si on n'arrive pas à lire précisément les écrits. On travaille beaucoup sur le brouillon, hein, sur l'écrit intermédiaire. Alors, je vous dis, dans toutes les disciplines, avec vraiment une réflexion sur la spécificité de chaque discipline, comment on parle, comment on lit, comment on écrit dans chaque discipline. Et ça en interdegré aussi, puisque du coup, on corrige ensemble des écrits d'élèves, par exemple, donc des instits, des profs référents ou des instits de CM2 viennent corriger un écrit en sciences en 6e. C'est extrêmement intéressant, je vous le conseille, c'est un pur bonheur. Donc Martin, c'est un joli prénom, je crois que ça devait être Kevin ou Jason. Mais bon, nous on l'a appelé Martin. Alors Martin, en fait, voilà ce qu'il fait en septembre entre son brouillon et son propre. Aucune copie, quoi, hein, pure et simple. Et Martin, en juin, donc après une année de pratique d'atelier dans toutes les disciplines. Alors, ce qui nous est apparu à la fin de la première année, hein, donc là on est. Enfin, première, deuxième année, on a commencé un peu en 2006, surtout en 2007, 2008, c'est que c'était un faire pratiquer, enfin ça paraît tellement bête de le dire, faire écrire les élèves, ça fait progresser les élèves à l'écrit. C'est un petit peu bête comme truc, mais c'est drôle, ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si on les met vraiment en situation de produire des écrits autonomes, de réfléchir, de parler, de lire, tout ça, quand on le fait pour de vrai, eh ben ils produisent des écrits plus longs, plus riches, ils réfléchissent, et surtout, les élèves les plus en difficulté profitent de ce dispositif. Et donc ça, c'était notre grande surprise, quoi. C'est-à-dire qu'en général, on dit toujours, bah oui, ça fait progresser les moyens, ceux qui sont juste au-dessus, mais la grande difficulté, ça leur passe là, quoi. Eh ben là, non. En fait, on a consulté vraiment. Martin et Lucie, en fait, c'est vraiment des élèves qui ont plein de difficultés, qui cumulent des difficultés de nature très différente. Et on voit que ça bouge, quoi. Il se passe quelque chose sur le plan, évidemment, de la quantité, mais sur le plan de la forme de cet écrit, de ce qui se passe. On voit bien par le brouillon qu'il y a un écrit qui sert à transformer sa pensée, quoi, et donc à apprendre. Sur Lucie, Lucie, en septembre, c'est vraiment minimaliste, très très minimaliste. C'est une élève qui était vraiment en grande difficulté, qui qui l'est toujours, on arrive à nos questions. Et voilà la façon dont elle arrive à produire quelque chose en juin avec un écrit sur l'écrit. Alors je ne sais pas si on arrive à lire, mais elle fait un schéma et puis tout en bas, voilà. Et elle dit en bas toutes les flèches en rouge sur le schéma, en dessous, ça forme un cycle d'eau. Enfin, c'était sur le cycle de l'eau. Et donc, elle commente son écrit. Elle écrit sur son écrit, quoi. Donc, une distance que vraiment, on ne s'attendait pas à trouver. Et donc, ça fait 4 ans qu'il existe le dispositif d'atelier d'écriture. Donc, il y aura plein de choses à en dire. Mais oui, c'est l'heure, j'arrête. Ce qu'on peut dire quand même, aujourd'hui, par rapport à cette expérience de l'atelier-là, les questions que ça me pose, c'est d'abord ce genre de dispositif, il faut qu'il vive suffisamment longtemps pour pouvoir avoir un peu de recul dessus, voir ce qu'il produit et qu'on puisse échanger. En même temps, un dispositif, il est là, il peut pas être là ad vitam aeternam. Hein. On a fait avec Didier il y a un certain nombre d'années des ateliers d'écriture en cycle 3. Et ben ils sont toujours là. C'était il y a beaucoup d'années. Donc, les dispositifs, ils doivent après transformer les pratiques dans les classes. Hein. C'est ça. Et après, une fois qu'ils ont apporté ça, ils doivent faire l'objet d'un bilan, être évalués, puis doivent se transformer. Alors, là où on en est, c'est que du coup, cet atelier, on voit bien que les collègues, ils y sont attachés parce qu'ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour le construire, que ça leur apporte quelque chose. Et en même temps, on voit bien il va falloir que ça s'arrête parce qu'il va falloir que ça change, qu'on aille vers autre chose. Donc ma question, c'est un peu comment on fait évoluer ça. Alors il a évolué ce dispositif quand même puisqu'il s'appelait atelier d'écriture et il s'appelle maintenant atelier de pratique langagière. Parce que les enseignants, en fait, sont bien vus que écrire, rentrer par l'écrit, c'est forcément manipuler, lire, écrire, parler. Donc, ils ont voulu l'appeler autrement, et peut-être que c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller vers autre chose. Et puis, ce qu'on peut dire en conclusion, enfin, Didier complétera s'il veut, c'est que ce qui apparaît à la lumière, là, de ma toute petite expérience là-dessus, c'est que finalement, ce qui me paraît important quand on arrive sur un réseau en tant que coordonnateur ou autre, quoi, faut penser tout de suite à cette histoire de mémoire, d'histoire, voilà, ça c'est vraiment super important. Et pour ça, eh ben, comme on le fait nous ici, et comme on demande de le faire aux élèves, faut écrire. C'est dur d'écrire, mais faut écrire. Deuxième point, la cohérence. En fait, je disais que le temps qu'on a passé sur le diagnostic et le temps qu'on a passé à travailler collectivement, ben c'est ça qui fait la cohérence. C'est-à-dire que si on prend pas ce temps-là au départ, on sait jamais où on va. Et la cohérence, ça veut dire qu'on peut se référer à quelque chose qui a été construit en rapport avec des difficultés identifiées de nos élèves et qui s'appuie sur quelque chose qui a été construit d'un point de vue scientifique ailleurs. Si on n'a pas ce lien avec la recherche, avec des appuis en formation tout le temps, ça ne tient pas. La cohérence, elle n'est plus là très vite. Et donc, pour tout ça, je crois que ce qu'il faut, c'est des gens qui sont des passerelles. C'est-à-dire que si on prend cette réflexion sur le langage, là, eh ben, il y a des chercheurs, puis il y a un conseiller pédagogique qui fait de la recherche, qui fait du lien avec une coordonnatrice, qui fait du lien avec des équipes d'enseignants. Et c'est tous ces liens-là qui sont importants. Et tout ça, il faut que ça travaille ensemble. Et si déjà, à ce niveau-là, ça ne travaille pas ensemble, je ne vois pas comment les enseignants, ils peuvent être dans le collectif. Je ne sais pas si tu veux.
Non, moi, je partage les conclusions de Dominique. Juste rajouter un mot sur aujourd'hui, ce qui me paraît un des enjeux, et sans doute une des choses à discuter, c'est comment, dans le cadre du travail collectif qui vient d'être défini, on pourrait avancer sur l'idée d'une pratique pédagogique ou de didactique qui soit véritablement en prise et intéressée avec les effets sociaux, les effets sociologiques de ces dites pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le dire peut-être un peu naïvement, comment sortir d'un certain cloisonnement disciplinaire qui fait que on est en peine peut-être aujourd'hui, ou on est en train de construire des outils pour les enseignants qui tiennent compte à la fois des disciplines, des activités nécessaires type langagière, etc., et d'une façon de les enseigner qui soit, pour faire très court, démocratisante.